France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Il sort son 12e album, Shiraz, où se mêlent le oud oriental, sa voix d'or et un jazz éclatant d'Afer Youssef. Sera l'invité des midis à partir de 13h. Et pour commencer cette émission, le plateau critique du jour, il sera consacré à l'actualité des séries avec des hommes, des vrais, chauds sur la glace dans It Is Rivalry, la série canadienne de Jacob Tierney qui cartonne à voir sur HBO Max, et puis musclé mais paumé à Hollywood avec Wonder Man d'Andrew Guest et Destin Daniel Cretton, ça c'est sur Disney+. Vous écoutez les Midis de Culture et j'en suis fort aise. Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Charles Bosson, critique, auteur et documentariste, bonjour.
Bonjour Marie.
Olivier Joyard, critique et réalisateur, bonjour.
Bonjour Marie.
Et Carole Boinet, directrice de la rédaction de notre partenaire Les Inrecuptibles. Vous partagerez tout à l'heure votre coup de cœur de la semaine. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous.
Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada, Shane Hollander.
Shane Hollander, I wanted to introduce myself.
Okay.
And Russia's Ilya Rozanov.
You're an awesome player to watch.
Yes.
Ouch. Ooh. Very good at hockey.
The best, probably.
Well, we've seen each other a lot.
Yeah, Boston and Montreal play against each other often.
Roz, you gotta see this.
He's like a huge movie star.
Are there any gay hockey players?
None that have said it publicly.
Et on commence avec la série qui a mis le feu aux joues des Canadiennes et des Canadiens, qui affole les réseaux sociaux, It Is Rivalry. Elle débarque aujourd'hui en France sur HBO Max. Les ingrédients: deux hockeyeurs, Shane et Ilya, sont rivaux sur la glace, mais en privé, ils vivent une histoire d'amour passionnée. En secret, car aucun joueur de hockey n'a jamais osé assumer son homosexualité publiquement. La série suit donc leurs ébats avec gourmandise, adopte une imagerie porno soft qui emprunte aux codes gays les plus classiques des hommes jeunes, sculpturaux et sensibles. La série de 6 épisodes a fait un carton au Canada et aux États-Unis et surtout, elle a séduit un public hétéro, féminin comme masculin. On commence avec quelques mots, Charles Bosson.
Eh bien, la série est un phénomène qui dépasse la simple diffusion, le simple objet sériel. C'est un phénomène de réseau, c'est un phénomène culturel. Et bon, moi, comme beaucoup de gens, j'ai d'abord été un peu en résistance. On a tous nos outils critiques assez affûtés. Mmh. Et puis, on est happé, broyé par le phénomène. Et j'étais très ému. Et je crois que j'ai beaucoup aimé cette série.
Waouh, Olivier Joyard.
Ouais, c'est vrai qu'il arrive que les phénomènes soient un peu incompréhensibles. Mmh. Et ici, je comprends l'engouement, en fait, les audiences du hockey qui explosent un peu partout, la folie autour de la série, qui, à défaut d'être une grande série, une série qui se renouvelle tout le temps, en fait, qui est très vivante, très sexy, un peu utopique, et qui repose sur cette quête relativement universelle et très normée, qui est de transformer un plan cul en plan cœur, avec aussi pas mal de soucis qui me semblent assez passionnants de détricoter.
Alors, Charles Bosson, ça, c'est quand même assez rare, une série qui dénoue et qui déjoue votre appareil critique.
Ouais, parce que on est toujours très armé, puis on a toujours tendance à comparer avec des choses qu'on connaît, qu'on a vues, des auteurs. Là arrive quelqu'un, Jacob Tierney, moi, que je connaissais pas. Il y a une idée, une fausse idée sur la série, c'est que ce serait un petit budget, quelque chose qui arrive de nulle part. Mm. C'est une série produite par Crave TV, qui est un gros réseau canadien. Jacob Tierney, il a 46 ans, il a commencé comme acteur, il a joué chez Terence Davis dans Neon Bible, il a créé une série il y a 10 ans qui s'appelle Letterkenny, qui a un immense succès, qui est une espèce de sitcom qui se passe dans une petite bourgade au Canada. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour développer des personnages queer, notamment gays, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Il a peuplé comme ça l'imaginaire de plein de personnages et il a même fait un spin-off qui s'appelle Shorzy avec un de ses personnages qui se met au hockey sur glace. Donc il est déjà dans ce monde-là. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit pas tout de suite son côté sitcom humoriste, parce que, enfin, pas humoriste, mais c'est quelqu'un qui manie très bien la langue. Pourtant, les dialogues sont très bien découpés, les relations entre les personnages sont très sérieuse, mais il y a beaucoup d'humour quand même qui circule entre ces deux personnages. Et je pense que alors, il y a aussi toute une tradition, ça moi que j'ai découvert, de la romance novel, et notamment des romances dans le milieu de hockey. Alors ça, il y en a pléthore et de grands succès. Je crois que 30% des romances qui cartonnent se passent dans ce milieu-là. Donc c'est ce côté feu et glace, c'est-à-dire, c'est un peu disons que les joueurs de hockey seraient une sorte de, comme des nouveaux chevaliers, puisqu'ils ont une espèce d'armure, il y a toute une étiquette, c'est évidemment des corps sculpturaux, donc on peut se rincer l'œil soleil comme ça, un peu de frais. Mais surtout, il y a beaucoup. C'est un milieu dans lequel il y a beaucoup d'interdits, et donc de
une
ces interdits.
De violence aussi, quand même.
Bien sûr. Oui. Et le créateur va tirer beaucoup d'effets, notamment en trouvant des manières secrètes de les faire dialoguer à travers les SMS, à travers des signes secrets, ce qui finit par donner à cette romance entre les deux une dimension épistolaire. On passe notre temps à lire leurs pensées, alors que les personnages ne se disent pas grand-chose. Et ensuite, sur la question de la représentation de la sexualité, je pense que la série continue de participer à une forme de révolution qui, pour moi, a commencé avec Normal People, la série avec Paul Mescal et Edgard Jones, adaptée de Sally Rooney, où tout à coup, les scènes de sexe devenaient plus qu'elles étaient traditionnellement dans la fiction, c'est souvent des choses un peu brutales, un peu accidentées, et qui avaient fini par devenir un peu comme ça dans la vie. C'est-à-dire que beaucoup de gens vivent la sexualité avec beaucoup de peur, et après la déconstruisent et se rendent compte que c'est allé avec de la violence, avec du trauma, avec de l'incompréhension ou de la déception. Et tout à coup, on crée une nouvelle génération de scènes de sexe avec les coordinateurs d'intimité, qui sont des scènes où on débat, où on dialogue, où on démine les zones de violence. Et c'est ça qu'on voit d'abord dans les deux premiers épisodes, et ensuite on vous racontera un petit peu ce qui se passe ensuite sans trop évidemment spoiler, mais c'est d'abord ça qui se crée entre les deux. C'est des scènes de sexe qui sont très chorégraphiées, assez graphiques sans qu'on ne voit rien, c'est-à-dire qu'on comprend toujours de manière très anatomique tout ce qui se passe, mais qui passe par de l'un la découverte de la sexualité avec un homme, et qui passe par beaucoup de dialogues, tout simplement.
Olivier Joyard.
Ouais, moi j'ai fait du hockey sur glace, donc je ne me suis pas senti chevaleresque pour autant. Et je trouve que la série efface un petit peu certains côtés, effectivement, la sueur et le sang, pour aller vite. Et puis il y a des codes au hockey, c'est-à-dire qu'on peut se battre, par exemple. C'est autorisé, enfin on va en prison pendant 2 minutes, mais il faut qu'on enlève les gants. Et le premier qui tombe à terre, le combat s'arrête, quoi. Donc, et évidemment, la série est assez maligne par rapport à ça, parce qu'elle retourne cette image-là de virilité assez classique et sportive contemporaine, je dirais. C'est vraiment l'élan le plus fort de la série, c'est-à-dire cette façon de mettre en scène ces hommes musclés qui se frôlent, se caressent, couchent ensemble. Bah, je trouve que sur la façon dont sont filmées les scènes de sexe, bon, on parle de Normal People, donc qui était un couple hétéro, qui était dans une relation qui tirait vers le BDSM. Moi, j'ai aussi et plutôt pensé à Queer as Folk, qui a déjà un quart de siècle, c'est-à-dire c'était 99, la version anglaise de Russell T. Davis. Donc, je n'ai pas été ébloui non plus par la façon dont Jacob Tierney filme ces corps-là, qui sont... Et en même temps, il s'excuse de rien, c'est ça qui est assez mignon, c'est-à-dire que ce sont des corps ultra-normés. On est dans des sociétés où les réflexions autour des questions queer, justement, se font au cours des... Comment dire ? Ça pose la question des corps moins normés, de la façon dont les corps se construisent, se performent eux-mêmes. Là, on est, les corps sont déjà là, ils sont pas problématisés.
C'est pour ça qu'il faut dire peut-être surtout gay. Classique que queer, puisque ça fait partie
c'est
des questionnements.
C'est-à-dire, c'est un vrai questionnement.
De la communauté queer.
On peut se poser la question de ce qu'en tirent des jeunes homosexuels ou des jeunes personnes queer aujourd'hui, entre, 18 et 30 ans, de cette imagerie-là. C'est-à-dire qu'il y a une imagerie qui, pour moi, vient quand même du passé, avec ses problématiques fictionnelles et narratives qui viennent aussi du passé. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'homophobie intériorisée, c'est-à-dire que les personnes savent que le monde est homophobe et que donc eux ou elles ne doivent pas parler. C'est ce qui se passe. Toute la fiction repose là-dessus, quoi. On ne peut pas vraiment reprocher ça à la série, mais on peut quand même le noter parce que c'est vraiment une fiction du secret et pas du tout une fiction de la visibilité, ce qui est paradoxal puisque ça nous montre deux hommes qui couchent ensemble et qui sont la série évolue. C'est ça qui est assez beau, je trouve, c'est-à-dire que effectivement, dans les premiers épisodes, il y a beaucoup de scènes de sexe et les espaces sont assez petits. C'est une série de 8 clos, beaucoup, puisqu'ils se retrouvent à l'hôtel, en fait. Ça dure sur une dizaine d'années. Ils se retrouvent à l'hôtel, on les voit coucher ensemble, de façon de plus en plus espacée. Et à la fin, ça se finit évidemment dans le cottage, c'est-à-dire avec des grandes baies vitrées dans la nature.
mais je trouve que c'est assez brillant, malgré tout, comme écriture. C'est-à-dire qu'il reprend une série de romans de Rachel Reed et le premier roman qui s'appelle Game Changer devient le troisième épisode, qui est un épisode, comme on dit, bottle, c'est-à-dire indépendant, où on découvre deux personnages et on se dit, tiens, un peu d'air. Parce qu'en fait, ce que fait la série de manière assez forcenée, c'est vraiment de ne jamais quitter ces deux personnages. On regarde à peine le hockey, on regarde très peu ce temps qui défile, parce qu'il y a 10 ans comme ça qui défile, qui s'effeuille, mais finalement, on ne s'intéresse pas tellement ni aux révolutions sociétales, ni à tout ce qui peut. Voilà, on est sur eux. Et tout à coup, on a cet épisode bottle qui qui nous montre deux personnages qui, en fait, sont des doubles de deux personnages principaux. Et l'effet de cet épisode 3 va attendre, va infuser et va exploser dans l'épisode 5, qui est un épisode qui est une espèce de, voilà, d'acmé, de fontaine de larmes, et qui a dépassé les cadres de la fiction, puisque des gens se sont mis à se retrouver dans les bars au Canada pour assister collectivement à ça. Et un des phénomènes les plus amusants, c'est que les filles hétéros filmaient leurs mecs regardant les épisodes, fondant en larmes. Et quand les hommes se mettaient à fondre en larmes, tout à coup, c'est comme si on découvrait que l'homme hétéro pouvait avoir des émotions, pouvait avoir envie de discuter, pouvait avoir envie, voilà. Donc tout à coup, la série sort. Mais c'est pas, pour moi, il y a rien de putassier ou de, parce que c'est extrêmement bien construit et que ça travaille vraiment avec des mécanismes d'écriture de la série, notamment comment on travaille sur les épisodes et comment un épisode vient glisser une thématique qui tout à coup va exploser dans une scène qui est bouleversante, qui est très bien réalisée, puisqu'un personnage s'exprime dans sa langue, le russe, sans que l'autre la comprenne, mais le russe est sous-titré pour nous. Donc nous, on a accès à des pensées du personnage et on a cette plaque sensible du personnage américain qui ne comprend pas la scène, mais qui la vit d'une manière physique, émotive. Voilà, c'est une série qui est très forte, qui est très libératrice, qui est consommée à la fois par le public queer, gay et par des hétéros. C'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on sort un peu justement des canevas habituels d'une série qui pourrait être normée. Et je pense que des gens comme Luca Guadagnino mettent déjà le grappin sur les acteurs d'une série, puisque je trouve que leur cinéma s'est affadi à tel point qu'ils n'arrivent plus à atteindre justement cette puissance-là. Mais comme dit Olivier, je suis d'accord, la série reconduit quand même toujours cette vieille fiction du placard qui remonte vraiment à Ian Foster, Maurice, qu'on trouve dans Brokeback Mountain, qu'on trouve dans Fellow Travelers, comme si finalement on pouvait pas imaginer une belle romance gay sans passer par une espèce de petit tourisme du placard, c'est-à-dire c'est quand même toujours plus fort le sexe quand c'est interdit.
Mais surtout que Queer as Folk, effectivement, à 25 ans, The L Word aussi, un peu moins, mais donc oui, c'est un peu étonnant. Mais l'identification, sur le fait que voilà, cette série parle à tout le monde, ça c'est intéressant, Olivier Gérard.
Oui, je parlerai pas au nom de tous les hétérosexuels ou tous les homosexuels, je ne sais pas. Je peux pas répondre exactement à cette question parce que le phénomène, effectivement, concerne a priori beaucoup les jeunes femmes hétérosexuelles, les hommes homosexuels, et puis c'est agrégé autour de ça une sorte de phénomène. Moi, j'attends de voir quand même, parce que la série commence à être diffusée là, elle a été beaucoup piratée, et ça nous ramène à des temps anciens des séries, parce que finalement, ça faisait quelques années que c'était pas arrivé. Ouais. Quoi. Moi, j'ai plutôt l'habitude des années 2000-2010, jusqu'à Lost inclus, disons, où il y avait vraiment beaucoup de téléchargements, et là, c'est pour revenir aussi à des codes qui sont finalement des vieux codes de la série, c'est-à-dire le mélo et le soap, qui sont cette fois... c'est-à-dire qu'on peut dire parfois que ça ressemble à un téléfilm érotique de M6 des années 80, je crois, 90, sauf que des téléfilms érotiques sur deux hommes et deux hockeyeurs, il n'y en avait pas, en fait. Donc on peut dire qu'on rattrape une sorte de temps perdu et du temps d'invisibilité qui a été vraiment très, 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 très dur, je pense, pour beaucoup de gens. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, la série est assez irrésistible. Voilà. Mais je maintiens quand même qu'il y a pas mal de soucis sur la question politique, quoi, autour des représentations et autour de la visibilité gay et queer aujourd'hui.
Heated Rivalry de Jacob Tierney s'est diffusé à partir d'aujourd'hui sur HBO Max avec Hudson Williams et Connor Story dans les rôles titres.
A superhero remake. Not exactly what we'd expect from an Oscar-winning director.
This is the world. It's everything. If I get this close and I miss,
Il faut me signer cette NDA. En partant du principe que vous avez pas de super pouvoir, bien sûr.
Ouais. Il faut que je fasse ce film. Jean!
Je suis né pour jouer ce personnage.
Être acteur, c'est la somme de tout ce que vous avez vécu. Les joies, les tristesses, les deuils, les peines de cœur.
Le département du Damage Control considère Simon Williams comme une menace exceptionnelle.
Et on enchaîne avec Wonder Man, nouveau rejeton de l'univers Marvel, mais on est plutôt dans la veine arty de la franchise, où les super-pouvoirs ne sont pas au cœur de l'intrigue. L'intrigue donc, Simon Williams, joué par Yahya Abdul-Mateen II, est un acteur qui rêve de décrocher enfin le rôle qui fera décoller sa carrière hollywoodienne. Il se lie d'amitié avec un comédien qui lui est plutôt sur le retour, c'est Trevor Slattery, qui est joué par Ben Kingsley, et tous les deux vont s'embarquer sur le tournage d'un film de super-héros. Mais Simon Williams a un secret, il est lui-même un super-héros. On commence avec quelques mots d'abord, Olivier Joyard.
Dans la grande marvelisation du monde, hein, qui est en cours depuis maintenant trop longtemps, je trouve, et qui est quand même en perte de vitesse, objectivement, c'est plutôt une des options qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire un récit plutôt humble, qui creuse des personnages, plutôt que de dérouler le tapis rouge aux effets spéciaux et à chercher le spectaculaire à tout prix. Donc, de ce point de vue-là, Wonder Man m'a semblé assez juste par rapport à ce qu'on peut attendre d'une série de super-héros aujourd'hui, même si elle ne m'a pas non plus ébloui.
Charles Bosson.
Moi, je dirais que c'est une déception. J'ai eu quand même un petit espoir d'avoir plus que ce que ça n'était. Et je pense que la tentative est effectivement intéressante, mais qu'on est frustré tout le temps par justement les limites de cette proposition.
Alors, Olivier Joyard, on va partir sur ce qui vous a plu, ce qui vous a séduit.
Bah, c'est peut-être une série sur les limites. Hein. Elle est même fondée sur une sorte de rareté des événements. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas avant la fin du deuxième ou du troisième. Ouais, à la fin du second épisode, on comprend qu'il est doté de super-pouvoirs, ce héros. Enfin, vraiment, parce qu'il y a une... Et ça se fait à travers des traces sur un mur. C'est un impact, comme ça, dans sa pièce principale de son appart. C'est recouvert par un drap et cet acteur qui est joué par Ben Kingsley, qui est devenu son ami, on comprend pourquoi assez vite, découvre ça. Et il y a une sorte de non-dit entre eux sur cette question, c'est que bon, on n'en parle pas.
Encore un secret.
Et, ouais, c'est ça, c'est complètement... Bah, là, pour le coup, c'est les mêmes ressorts, quoi. Et c'est très Marvel aussi, c'est-à-dire un héroïsme qui est comme ça intériorisé, qui est à l'écart du monde et qui sort comme ça, comme une sorte de maladie qu'on ne peut pas éviter. Et donc, je trouve la série... je dirais assez fine dans sa façon de déployer ce programme-là. Moi, j'avais bien aimé aussi la version Game of Thrones de A Knight of the Seven Kingdoms, qui vient de commencer à être diffusée, et qui est aussi assez déflationniste, comme ça, c'est-à-dire qui montre pas tout le temps les muscles. Et là, on est sur cette question-là, avec évidemment la question du super-héros, donc du masculin, donc de l'anti-héros, qui est mêlé aussi ici à un trope purement télévisuel qui est celui du quotidien. C'est-à-dire que c'est une série qui va nous dire, en fait, c'est un super-héros, mais on va vous montrer d'abord son quotidien, qui est celui d'un acteur. Et là, on arrive dans une autre dimension de la série, qui me paraît plus intéressante en tous les cas, et que moi j'ai plus envie de regarder, qui est la fiction sur Hollywood, sur le travail, sur la galère. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait croiser les personnages de studio. La série avec Seth Rogen qui est sortie l'année dernière, où Seth Rogen joue un patron de studio comme ça, arrivé presque par hasard à la tête d'un studio. Eux, ils sont tout en bas. Et c'est vraiment sur cette façon qu'a la série de décrire l'enfer des castings, par exemple, la difficulté à... Cette ambition qu'ont les grands acteurs, enfin tous les acteurs en fait, de jouer des grands textes et qui se retrouvent à jouer deux lignes dans un téléfilm ou dans une petite série, voilà, toutes ces choses-là me plaisent assez. Mais on va en parler, mais je trouve que la série n'arrive pas à décoller à partir de
Charles
ça.
Charles Bosson, vous êtes d'accord avec Olivier sur cette partie-là, le côté déflationniste.
Absolument, de faire plus petit. Ouais. Effectivement, Knight of Seven Kingdoms, c'est beaucoup plus satisfaisant, notamment parce que on sent qu'il y a un vrai auteur derrière, avec un vrai plaisir de dialogue. Moi, ce qui me manque un petit peu dans Wonder Man, c'est que la série est présentée comme un buddy movie qui pourrait être très efficace entre un acteur de 82 ans qui est Ben Kingsley, qui est britannique, qu'on connaît très bien, qui est présenté comme un acteur un peu loser venant d'une vieille époque Marvel 2013. C'est un personnage de Iron Man 3 qu'on est allé repêcher et qui avait été manipulé pour passer pour un terroriste. Donc il avait une sorte quand même d'actualité ou de réalité politique. Et là, on le présente comme un marginal. Alors, le film est cité à la Dustin Hoffman dans Macadam Cowboy. Les deux personnages se retrouve même au cinéma devant une projection du film de Schlesinger, se rencontre. Et l'autre personnage, c'est Yahya Abdul-Mateen II, donc qui est un acteur qu'on commence à voir dans plein de choses.
Il était à la fois
dans Watchmen, où il était formidable. Il joue dans Ambulance de Michael Bay. Alors, il fait un peu tout et n'importe quoi. Il faut dire qu'il a un corps immense, il est très grand, il est surnaturellement beau. Voilà, donc c'est des acteurs, c'est pas si facile de leur trouver finalement des rôles hors du registre super-héros. Et lui, on le présente comme un obsédé du travail, qui quelqu'un qui, dans les scénarios, essaye toujours de creuser, de comprendre le côté Daniel Day-Lewis obsessionnel. Et c'est intéressant puisque la fiction lui propose quelque chose de tout cuit. Il est super-héros, donc pas besoin de réfléchir, il peut sauver le monde. Et ce qui est très beau comme idée, c'est que lui fait un détour en disant « ça ne m'intéresse pas, j'ai envie de jouer ». Et pour moi, c'est là que la série s'essouffle et crève comme un ballon. C'est qu'à partir de là, il faudrait créer des scènes drôles, vivantes, sur la réalité, quelque chose d'un peu documentaire. Et il y a une scène, un épisode, je crois que c'est le sixième, où ils vont chez un réalisateur façon réalisateur européen, qui aime improviser, qui est très, voilà, qui a un tempérament très fort, et il leur fait faire des impros. Et là, je me dis, mais où est passé Jacques Rivette? C'est-à-dire, si seulement pendant deux minutes, on avait laissé ces acteurs qui sont des bêtes de scène et de maîtrise de leur métier, improviser comme il le ferait dans la réalité. Ça donnerait tout à coup de la vie, de la puissance à voilà, un petit machin de plateforme.
Là, c'est pas le cas.
Et c'est pas le cas.
Ouais. Olivier Joya.
Ouais, il y a aussi la mauvaise conscience hollywoodienne qui s'exprime, et peut-être celle de Marvel et de Kevin Feige qui travaille, qui est un peu le grand boss qui façonne les films, les séries actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même des personnages d'artistes. C'est des personnages qui, c'est comme dans The Studio où finalement le personnage de Seth Rogen a une âme et envie de faire des gros blockbusters, mais quand même en plan séquence. Quoi. Enfin, il veut travailler avec des réalisateurs auteurs, etc. Et là, c'est un peu la même problématique, et c'est même, je dirais, assez mignon sur la façon dont les plateformes bouffent le cinéma en salle actuellement, et que finalement elles y reviennent aussi, puisqu'il y a cette scène de rencontre au cinéma, il y a plusieurs scènes dans un cinéma, il y a toute une presque une fétichisation qui est presque cinéma paradiso, relativement vieillotte finalement de l'idée du cinéma, mais il y a aussi l'idée que l'enfant se projette dans les rôles. Comment dire, que tout cinéphile est un enfant dans le noir, quoi, comme disait Louis Gorecki. Et il y a quelque chose de ça qui moi, m'atteint un peu dans la série. C'est-à-dire qu'il y a aussi tous les processus autour de la fatigue de l'usine à rêve, quoi, de hollywoodienne, qui me semble assez paradoxaux et à la fois pertinents aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce que la série peut en faire. C'est là où elle a ses limites, c'est qu'elle ne développe pas un grand élan romanesque à partir de ça. Elle ne développe pas des personnages déchirants, puisque de toute façon, dans la fin de la saison, il va falloir que l'action reprenne le dessus. Hein. Ça se termine sur un effet spécial, alors que l'effet spécial avant, c'était l'acteur lui-même. Et donc voilà, c'est une série qui... Je ne sais pas s'il y aura une saison 2 ou si c'est pensé comme une mini-série. Je crois que ce n'est pas encore
très clair. Il n'y a que 6 épisodes, en tout cas.
Voilà, c'est ouvert, hein, donc c'est possible.
Oui, c'est possible, mais c'est... Voilà, je parierais pas complètement sur une seconde saison.
Charles Bosson.
Non, mais voilà, je pense que c'est plein de petites frustrations d'une série. Il y avait une grande série Marvel formidable qui était WandaVision en 2021, qui justement problématisait tout ça, c'est-à-dire une femme coincée dans un univers de sitcom, entourée, effrayée par ses propres pouvoirs. Voilà, la série avait vraiment su en faire quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de tourner autour d'un genre qui devient un peu presque obligatoire, qui est il faut rendre hommage au grand cinéma. Et j'ai l'impression que la série elle-même n'y croit pas tellement. Par exemple, rien que dans la manière dont on montre Macadam Cowboy, là, on montre tout le film en petites séquences, comme si personne finalement n'avait vu le film et se rappelait que, par exemple, il y a une scène magnifique qui se passe à la factory d'Andy Warhol. On aurait pu en voir une minute, c'était formidable, ça donnait envie de voir le film. Là, il faut absolument tout spoiler. On va même vous montrer la mort d'un des deux personnages. Donc, pour moi, il n'y a pas d'amour dans ce rapport au cinéma. Bizarrement, une ou deux fois dans la série, les deux personnages citent des séries. À un moment, ils citent une série qui s'appelle Omnibus, que personne ne connaît, qui était une sorte de série prestige des années 60, dans laquelle Kubrick a fait ses premières armes. Et je me dis, et si on changeait et qu'on rendait hommage à l'univers des séries? Et à un moment, le personnage est à court de dialogue et il cite des scènes de Law and Order. Et là, je trouve que, à ce moment-là, j'ai l'impression que les personnages croient plus à ce qu'ils sont en train de faire et à ce qu'ils sont en train de dire. Et il faut oser, à un moment, aller explorer d'autres cultures que de toujours cloner et suivre. Je pense que Quentin Tarantino avec Once Upon a Time in Hollywood et The Studio ont vraiment plié ce jeu de, voilà, le grand hommage à Hollywood et au cinéma perdu. Ouais. Passons à autre chose. Et je pense que c'est très intéressant d'aller créer une culture de série via la sérialisation des Marvel.
Olivier Joyard.
Ouais, c'est-à-dire que ce qui manque peut-être à la série, c'est un aspect conceptuel, comme il y avait dans WandaVision, qui était vraiment une série méta sur l'idée de la sitcom, et ça changeait de décor, et il y avait quelque chose de très très vertigineux en fait dans la fiction. Là, ça participe quand même de cet élan-là, mais de façon plus modeste. C'est-à-dire que chaque épisode est un peu une aventure. Enfin, en tout cas, on le croit, parce qu'il y a cet épisode 4, je crois, qui est en noir et blanc, donc qui se passe de façon... qui met en scène, presque à la Black Mirror, un super-héros qui était le doorman, c'est-à-dire le physio d'une boîte de nuit, et qui finit par rencontrer un acteur dont il devient la sécurité personnelle. Enfin, c'est un peu complexe, mais c'est tout ça pour comprendre pourquoi, et ça c'est la grande obsession Marvel, pourquoi les super-héros, pourquoi il ne veut pas dire qu'il y a un super-héros, c'est parce que les super-héros sont interdits, donc sont les discriminés, en fait. Et ça, la série, ce point de vue politique, elle ne fait que l'effleurer.
Wonder Man d'Andrew Guest et Destine Daniel Cretton, diffusé sur Disney+. Ce petit son, ça signifie que c'est l'heure de votre coup de cœur. Carole Boinet, vous êtes directrice de notre partenaire Les Inrecuptibles. On vous écoute pour un roman aujourd'hui.
Oui, j'ai très envie de vous parler de Lolita Pille et de son essai Antigone Reine, paru aux éditions du Cherche Midi, dans lequel, je tiens à le noter, elle cite quand même Proust, mais aussi Mad Men et Breaking Bad, dans une grande déclaration à la fiction. Lolita Pille donc, n'est pas exactement une artiste émergente, je triche un peu cette semaine. Elle s'est fait connaître en 2002 avec Hell. Elle avait alors 19 ans, elle chroniquait une jeunesse dorée et désillusionnée, un roman qui avait beaucoup fait parler de lui. Mais revenons à aujourd'hui, Lolita Pille a 42 ans, elle a sorti 4 livres, 5 en comptant le nouveau venu, Antigone Reine. Un drôle de nom pour un drôle de livre, il faut s'y engouffrer et le voyage vaut le coup. Grande lectrice, Lolita Pille se pique de questionner le pouvoir de la littérature et de la fiction sur nous, simples mortels, car la littérature a un pouvoir magique, surnaturel, celui de défier l'espace et le temps, de défier aussi les catégories socioculturelles pour nous permettre d'expérimenter la joie de se fondre dans l'autre. Le premier chapitre s'intitule d'ailleurs « De la fiction, cet obscur sujet du désir ». Alors, elle dit que se dessine actuellement une sorte d'omniprésence de l'essai, du récit de soi, du témoignage, comme si la fiction était menteuse. C'est oublier que la fiction dit elle aussi la vérité, mais d'une autre manière. C'est toute la beauté du conte, de la parabole, de la métaphore. Lolita Pille écrit même « Les métaphores, quand elles sont vraiment bien, m'envoient au 7e ciel ».
Alors, à quoi ressemble ce livre?
C'est une forme extrêmement hybride à la Maggie Nelson. Elle nous embarque chez Kafka, Virginia Woolf, Proust, Bell Hooks, Sylvia Plath et j'en passe. Elle questionne le procès fait au beau, par exemple. Elle écrit « Sans la beauté, nous ne pourrions pas tenir. Si nous ne prenions pas par l'art le pouvoir de renouveler notre être, de substituer la beauté à la violence d'où nous venons, nous ne pourrions pas vivre. » Elle pourfend le sexisme dans la littérature, mais proclame qu'elle refuse de renoncer à lire des auteurs masculins, arguant même que le poison, je la cite, « rend plus forte ». Elle étrille le roman sujet, défend l'absence de narratif, de rebondissement, le rien qui, chez certains et certaines, devient justement un plein. Elle n'hésite pas à écrire « Ne sommes-nous pas en train de jeter la littérature au fond d'un trou pour l'y laisser mourir comme Antigone ? Ne sommes-nous pas en train d'abattre la littérature avec des armes esthétiques de droite, les armes du marché, et des armes esthétiques de gauche, les bonnes intentions ? » Alors, tortueux, Antigone Reine foisonne, déborde de références, de sujets, de pensées, de citations, mais j'ai envie de dire, c'est ce trop-plein qui le rend précieux. C'est une déclaration d'amour à la fiction, à la littérature, exigeante et exaltante, à l'image d'Antigone, grand personnage de Rebelle.
Antigone Reine de la romancière Lolita Pille paraît au Cherche Midi. Merci beaucoup Carole Boinet, merci Olivier Joyard, merci Charles Bosson d'être venu dans les Midis. Vous qui nous écoutez, vous retrouvez toutes les références de ces séries sur la page de l'émission. On se retrouve dans quelques instants.